J'ai pas pu donner les versets, André, parce qu'en fait, vous allez comprendre pourquoi. On va parcourir une grande partie de la Bible en peu de temps. Donc, je ferai juste appel à votre mémoire. Voilà. Vous vous souvenez du message, pour ceux qui étaient là, que nous a apporté le pasteur Moïse Arou sur la multiplication des pains. Et je l'ai bien écouté. Je ne sais pas si vous réalisez, mais je ne l'ai pas écouté prêcher depuis que j'avais une dizaine d'années. Donc, c'est sympa. Il n'a pas vieilli. Vous avez pu le constater. Et il a dit, alors je ne vais pas refaire son message, simplement Jésus qui dit à ses disciples, les disciples disent, bah oui, il y a la foule qui est là, il faut les renvoyer pour qu'ils aient à manger. Et Jésus m'a dit, donnez-leur vous-même à manger. Bon, évidemment, il a bien rendu la chose, comment ils se sont ressentis les disciples. Donnez-leur vous-même à manger, aïe aïe aïe. C'était pas évident. Mais ils ont déniché un petit garçon qui avait quelques pains et quelques poissons. Je me souviens jamais des chiffres. J'ai pas de mémoire des chiffres. Et ils prennent ce que ce petit garçon avait apporté. Et Jésus prend le pain, il rompt le pain. Et puis, il demande aux disciples de les distribuer. Et il reste 12 paniers. Alors, par rapport à une foule aussi immense, c'est incroyable. Et c'est un récit qui apparaît dans les évangiles deux ou trois fois, je crois. Et j'ai été interpellée quand il a dit ce que Dieu... Alors, je ne sais pas si c'est exactement les mots. Ce que Dieu... ce qu'on donne à Dieu, il le brise, il le rompt pour après le distribuer. Et je me suis dit en l'écoutant, tiens, il faut que je regarde dans les personnages bibliques si ça se vérifie, ce qu'il dit là. Et vous me connaissez, j'aime bien tous les personnages de la Bible parce que c'est des vrais personnages qui ont existé, qui ont vécu des choses souvent très difficiles et on peut se retrouver dans leur vie aussi. Le peu qu'ils avaient a été brisé en morceaux, mais ce peu est devenu abondance. Et il a nourri toute une foule. Je me suis dit, mais le brisement, c'est bien, mais c'est pas très sympathique. Prêcher là-dessus un dimanche matin, je crois que c'est politiquement incorrect. C'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre. Pourtant, si je posais des questions à chacun d'entre nous, je pense que vous sauriez me dire, dans la mesure où c'est possible, quand est-ce que vous avez vécu un brisement? On en a tous vécu. C'est bien rare que quelqu'un puisse dire, moi, tout a toujours roulé sur des pétales de rose. Peut-être, tant mieux, mais bon, moi j'aimerais bien, franchement. Donc on a tous vécu ça, prêcher là-dessus, c'est un peu ingrat, mais voilà. Le peu qu'on donne et qui est brisé devient abondance. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui se passe après le brisement. Alors le pourquoi du brisement, je ne vais pas trop m'y attarder, parce que vous allez voir dans les différents personnages qu'on va regarder, les pourquoi sont différents. Prenez, on ne va pas s'attarder sur Job, parce que Job c'est un peu déprimant quand même, hein, mais Job, pendant un temps fou, hein, sur 40 chapitres, on ne sait pas pourquoi il a été brisé comme ça, le pauvre homme. Surtout avec ses copains qui lui disent tout un tas de trucs, c'est de ta faute, c'est toi, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Ils ne sont pas très sympas. Bien sûr, comme il n'est pas parfait, c'était facile de dire c'est de ta faute. Mais Job, c'est difficile de trouver le pourquoi exact. Alors, on a une image forte sur le brisement, évidemment, c'est Jésus. Jésus qui est venu exprès pour être brisé. Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Alors, le pain, vous savez, à cette époque, et il y a encore beaucoup de pays où c'est le cas, hein, c'était l'aliment de base, on n'avait pas de fourchette. Hein. Les fourchettes sont arrivées très tard. Et donc, on se servait du pain, on trempait dans la sauce, dans la viande, etc. Et le pain, c'était vital. Et Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Et lui aussi va être brisé à la croix. Brisé pour nos péchés, dit Ésaïe. C'est quelque chose qu'on commémore toujours à la Sainte Cène. Le corps de Jésus brisé pour nous, son sang versé, etc. Et là, on sait pourquoi. Pour qu'on puisse recevoir le pardon, le salut, la vie éternelle avec Jésus. Pour certains brisements, on n'aura pas forcément la réponse, mais on va rentrer dans la Bible et on va commencer avec les personnages. Alors, il y en a plusieurs, j'en ai pris quelques-uns. J'espère que vous les connaissez. On fera, pour ceux qui ne connaissent pas bien, on fera un petit résumé. Je passerai sur beaucoup d'événements, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que le temps ne permettra pas de tout raconter. Mais avant d'attaquer le premier personnage qui va être Abraham, bien sûr, j'ai pensé à ce chant et j'y pense souvent. On chante vaillamment, je te donne tout. Parfois, ça me gêne. Et je me dis, ma fille, tu donnes tout. Et il y en a un autre encore que je préfère en anglais, hein, I surrender all. Je te soumets tout, je te donne tout, effectivement. Mais en français, c'est oh, prends tout, Seigneur. Et ça me gêne parce que combien de fois on chante ce chant super, oh, prends tout, Seigneur. Et dès que le Seigneur nous reprend un petit chouïa, déprime, on pleure, on n'est pas content. Suivant notre caractère, on a des réactions diverses. C'est normal, on est humain. Hein. Et puis le pire des chants, tu donnes et tu reprends. Et je vais vous avouer que celui-là, j'ai encore du mal à le chanter, parce qu'il y a quelques années, on a invité ici le président des groupes bibliques universitaires. On avait connu les précédents, ça change de temps en temps, et celui-là, on ne le connaissait pas, c'était un pasteur assez jeune, et on s'est dit, bah, c'est bien, on va l'inviter à prêcher pour que les jeunes de notre église connaissent les groupes bibliques universitaires, quand ils vont à l'université, qu'ils ne soient pas perdus, et qu'ils aient un groupe avec lequel ils peuvent prier, évangéliser surtout, parce qu'on est là pour ça. Et donc, on l'a invité. Et puis, ce jour-là, le leader de louange avait pris ce chant, « Tu donnes et tu reprends ». Moi, il me fait toujours frémir, ce chant. Et j'ai vu qu'il ne chantait pas. Il est resté tout droit. Et à la sortie, il m'a dit, « Je suis désolée, mais c'est un chant que je ne peux pas chanter. » Et vous savez pourquoi ? Marié depuis peut-être un an ou deux, je ne me souviens plus exactement, sa femme et leur bébé ont eu un accident de voiture et sont morts tous les deux. Tu donnes et tu reprends. Ben, ce n'est pas digeste. Vous imaginez ce qu'il ressent quand il chante, quand il entend chanter ce chant. Il avait une femme super, un magnifique bébé, en bonne santé, et ils meurent tous les deux brutalement dans un accident de voiture. Il m'a dit, je ne suis pas encore capable de chanter ce chant. Parce qu'en fait, quand on chante, il faut mieux penser ce qu'on chante. Et il y a des fois où il y a des choses qui sont difficiles à chanter. Si on est honnête devant Dieu et surtout envers nous-mêmes, tu donnes et tu reprends, ça ne fait pas plaisir. Et les rares fois où on vit des choses comme ça, où Dieu nous reprend quelque chose qu'il nous a donné,
je voudrais aussi citer Rolf Schneider, que
oui,
tu connais.
Oui.
Et j'étais là, j'ai vécu ce moment où il a perdu sa fille de 8 ans. Et lui, tu donnes et tu reprends, eh bien, il a pu le chanter. Il a pu le chanter, mais longtemps après. Et j'ai même l'impression que c'est lui qui a écrit le chant.
Ah, c'est possible.
Oui, voilà.
Alors, c'est un chant, évidemment, qui est difficile à chanter. Et je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on chante, quand même. Il y a des fois où je n'ai pas envie de le chanter. Je n'ai pas envie, parce que ça fait mal. Et puis, ce que j'aime pas, je vais vous dire franchement, ce que j'aime pas dans ce chant, c'est l'idée, pour les gens qui viennent pour la première fois dans l'église, ça donne une image de Dieu qui est un peu bizarre. Tchouk, tchouk, je donne, je reprends. Ouais, ça fait léger, quoi. Hein. Or, c'est pas ça. C'est pas ça le brisement. Hein. C'est pas ça. Mais n'empêche que c'est un brisement terrible. OK. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce qu'à chaque fois qu'on chante, j'y pense. Alors, Abraham. Aïe, aïe, aïe. Abraham. Rapidement, il habite à Ur en Chaldée, à peu près l'Irak. Hein. On est 2000 ans, alors grosso modo, hein, mes dates sont vagues, c'est juste pour vous donner une idée, environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Ça fait 4020 ans. Abraham, c'était loin. Hein. Eh bien, c'était un être vivant, réel, bien vivant, que Dieu a appelé en lui disant « Quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » À une époque où tous les pays autour avaient tendance à adorer divers dieux, la lune en particulier, hein, dans ce coin-là, ils avaient fait des ziggourats, des pyramides en escalier, où ils adoraient la lune, etc. Et lui, la Bible ne dit pas comment, ni pourquoi, il adorait l'Éternel, le Dieu vivant. Apparemment, c'était possible, pour les cœurs ouverts, j'imagine. Et Dieu lui dit, vas-y, et il part. Il part, il lui dit, quitte ton pays, ta famille. Alors, il n'a pas tout à fait fait ça, parce qu'il est parti avec son père et son frère, je crois, et son neveu. Il va jusqu'à Canaan, mais il s'arrête à Charan ou Haran, suivant les traductions. Et vous savez quel âge il avait, Abraham ? Les spécialistes de la Bible disent 75 ans. Répondre à un appel à 75 ans, c'est pas évident, j'en sais quelque chose. Et pendant 10 ans, il va se déplacer en Canaan. Il va même aller en Égypte pendant un temps de famine. Mais il obéit. Je pense que ça n'a apparemment pas trop brisé sa vie. Bien sûr, ça a brisé ses liens familiaux, mais à part ça... Il est allé, faut vous dire qu'à Ur, si vous regardez dans une encyclopédie, vous allez voir le confort des maisons. Et partir vivre sous des tentes avec des troupeaux dans des zones plus ou moins désertiques, écrasées par la chaleur la journée, où il fait froid la nuit, etc. 75 ans. Bon, alors, comment il calculait les années, je sais pas. En tout cas, il était très âgé, qu'on calcule d'une manière ou d'une autre. Voilà, il dit 75 ans. Il se sépare un jour de Lot. Et c'était ce que Dieu voulait d'ailleurs, parce que Lot n'avait pas la même vision de la vie, visiblement, puisqu'il, lui, il va aller à Sodome et Gomorre. Par contre, Abraham se fixe à Hébron, dans un endroit qu'on appelle les chênes de Mamré, on en parle souvent dans la Bible. Et Dieu lui promet un fils. Il fait alliance avec lui, une alliance en bonne et due forme. Dieu confirme son alliance et lui dit « tu auras ce pays Canaan en héritage ». Mais pendant 12 ans, il ne se passe rien. Rien du tout. Pas d'enfant. Et bah, il pense à la procédure d'adoption, comme tout un chacun. Et à l'époque, la procédure d'adoption, c'était de voir une servante qui avait le bébé pour vous. C'était déjà les... Comment on appelle ça ? Voilà, les mères porteuses, merci. Et donc, c'était courant, hein, c'était pas exceptionnel, mais c'était pas ce que Dieu voulait. Même si c'était courant à l'époque. Et il a Ismaël... mais c'est toujours pas le fils de la promesse. Et là, j'ai lu quelque chose qui m'a intriguée. L'homme essaie de réaliser la promesse de Dieu, mais le plan de Dieu, lui, ne bouge pas. Et j'ai pensé, s'il y a des gens dans la salle qui ont peut-être essayé de réaliser ce que Dieu a promis par leurs propres moyens, hors de la volonté de Dieu, n'ayez pas peur. Quand Dieu a un plan, si on revient vers lui, il le réalise. Et c'est ça que je trouve formidable dans l'histoire d'Abraham. Dieu aurait pu dire, bon, ben, je m'en lave les mains, mon petit gars, t'as rien compris, t'as pas obéi, t'as pas eu la foi, c'est fini. Non, le plan de Dieu est toujours là. Il a choisi Abraham, il lui a promis un fils qui serait le père d'une grande nation, et il est le père d'une grande nation. Point. Dieu a réalisé ses plans, malgré l'erreur d'Abraham, malgré nos erreurs humaines, le plan de Dieu se réalise. Ça console quand même, hein, malgré nos erreurs. Alors, Abraham avait reçu des promesses énormes. Mais lui, il a vécu de grandes épreuves. Alors, si vous regardez sa vie, je passe, hein, des guerres, la famine, il y a eu tout un tas de soucis sur ses déplacements. Et puis surtout, l'épreuve de patience. Parce qu'après Ismaël, Dieu a dit, tu auras un fils. Et finalement, il a Isaac. Miracle total, sa femme était très âgée, et lui aussi. Mais le grand brisement d'Abraham... Mis à part le temps de patience, pour ceux qui ont patienté pour recevoir une bénédiction, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est long. Mais le grand brisement, ça a été le sacrifice d'Isaac. Comment ce Dieu donne et reprend, quelque part ? Tu vas sacrifier ton fils. Mais vous imaginez tout ce qui s'est passé en sa tête. Alors tout ce que Dieu m'a dit, c'est pas vrai. Comment est-ce que je peux être le père d'un peuple ? À mon âge, il approchait de 100 ans. C'est pas possible. Impossible, impossible, impossible. Voilà, c'était le problème. Impossible. Tu donnes et tu reprends. Je pense qu'il a dû se poser des tas de questions et il y a quelque chose qui a cassé chez lui. Alors, évidemment, nous aujourd'hui, ça poserait pas de problème Par contre, à cette époque-là, ça poserait des problèmes, mais à cette époque-là, ça n'en posait pas, puisque les populations autour sacrifiaient leurs enfants, surtout l'aîné. Mais il se dit, bon, peut-être ce Dieu demande un sacrifice. Et il y va. Et quelque part, il prouve à lui-même et à Dieu que l'adoration de son Dieu passe avant, j'allais dire, l'adoration de son fils. Vous pensez, fils unique qui doit être celui qui va amener un peuple nombreux. Il faut déjà... C'était inimaginable. Et parfois, il y a des moments où on ne comprend pas ce que Dieu fait. Alors, j'imagine que vous, ça vous est peut-être jamais arrivé, mais moi, oui. Mais Seigneur, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais ça? On n'a pas toujours de réponse, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu a constaté qu'il avait plus d'adoration pour Dieu que pour son fils. Et ça, c'était très, très important. Le brisement a conforté Abraham dans son adoration du Dieu unique, du Dieu vivant. Il devait être le père d'un peuple, il a été le père d'un peuple. Tout son espoir reposait sur ce fils unique, mais il a été brisé dans son cœur, dans son amour pour son fils, dans ses espoirs. Il a été complètement ébranlé dans sa confiance en Dieu, mais il a gardé sa confiance en Dieu. Il a tenu bon. Et le point central de la vie d'Abraham aujourd'hui, on peut constater, c'est l'alliance de Dieu avec lui. Et Israël, grâce à Abraham, est devenu le peuple élu. Il a reçu un pays en héritage. Et rendez-vous compte que 4000 ans après, ça fait encore problème. C'est faux. Il a reçu un pays en héritage et il allait aussi donner naissance, après des générations, à l'instrument de salut, Jésus, pour les nations. Genèse 13, 12, verset 3 dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi ». Il a eu une épreuve de brisement épouvantable. Il a tenu bon. Et Dieu, évidemment, ne l'a pas laissé sacrifier son fils. Pour ceux qui ne connaisseraient pas l'histoire, Dieu ne l'a pas laissé faire. Il a pourvu un animal pour le sacrifice et il lui a dit « Arrête ». Et Dieu n'a... Et ça a été pour les Juifs aussi un signe très fort que Dieu, le Dieu d'Israël, n'acceptait pas les sacrifices humains. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, bah évidemment, oui. C'était pas évident à l'époque. Hein. Il y a 4000 ans, c'était pas évident du tout. Et vous allez trouver des versets dans Ésaïe, j'aime bien les citer, où Dieu dit qu'il est en colère contre les gens qui sacrifient leurs enfants. Voilà. Alors, Abraham, on connaît les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Alors lui, c'est différent. Il a commencé sa vie pas mal, hein, le chouchou de maman. Et puis, il était assez rusé. Il va récupérer le droit d'aînesse de son frère. C'était très important à l'époque, hein, d'être l'aîné. Et il y avait tout un tas de bénéfices qui étaient attachés et de responsabilités au rôle de l'aîné. Son frère Ésaü rentre de la chasse. Il est fatigué, il est épuisé, il a faim. Et lui, notre Jacob, est en train de faire la cuisine, tranquille. L'autre arrive, il dit, oh, ben, tu peux m'en donner, c'est le moment ou jamais, tu me donnes ton droit d'aînesse. Il n'en avait rien à faire, Ésaü, c'était un chasseur, c'était tout à fait, il n'était pas très soucieux de ce que Dieu lui offrait, et il donne son droit d'aînesse. Bon, Dieu n'apprécie pas ce genre de fonctionnement, c'est sûr. Il va se déguiser pour recevoir la bénédiction de son père, un petit peu culotté quand même, hein, et comme son père devenait aveugle, il en a profité. Mais voilà, son frère est furieux. Au bout d'un moment, il réalise ce qu'il a fait, décide de le tuer, et donc il part. Il part chez son oncle, enfin dans la famille d'Abraham, et il part à Charan justement, et où vit encore une partie de la famille qui s'est arrêtée en route, qui n'a pas continué jusqu'à Canaan. En route, il a cette vision de l'échelle avec une promesse de bénédiction. C'est marrant d'ailleurs. Moi, je me serais dit, oh, bon, ce qu'il a fait. Mais Dieu ne retire pas sa bénédiction. Simplement, il va le faire passer par des brisements. Alors, le brisement, ça commence bien. Il veut épouser la fille de Laban. Oui. Il travaille. Il lui dit, ok, tu travailles 7 ans pour moi. Et attention, s'occuper des moutons, les chèvres, etc. C'était tout un boulot avec la chaleur et tout, leur donner à boire. Enfin, vous imaginez, un énorme boulot. 7 ans pour pouvoir enfin épouser la jolie Rachel. Et le trompeur va être trompé. Le soir du mariage, on lui donne la sœur, Léa. Il s'en aperçoit visiblement tard, il avait certainement trop bu. Et L'oncle Laban lui dit, bah écoute, c'est pas compliqué, je veux bien te donner Rachel, mais tu retravailles 7 ans pour moi. Apparemment, il devait bien travailler, hein. Il a été bien exploité. Il a trompé son frère et maintenant c'est lui qui est trompé. Et là, il est brisé. C'est plus le chouchou de maman qui vit tranquille à la maison, sous les tentes, etc. Non, non, c'est l'ouvrier agricole exploité à mort pendant 7 ans et encore 7 ans. Pour les beaux yeux de Rachel, il accepte. Mais je pense qu'il y a eu un brisement quand même. Il a dû se passer des choses dans son cœur. Vous imaginez? Et puis après, il faut encore 6 ans pour payer un peu de troupeau pour partir. Hein. C'était le compte en banque, hein, le troupeau. Donc ça fait beaucoup, hein. 7 et 7, 14 et 6, 20. 20 ans d'esclavage comme ouvrier agricole. Ça, si ce n'est pas un brisement, mais il a accepté. Il a accepté. Et puis, bah, il est face à la jalousie des fils de Laban. Il finit par s'enfuir avec sa famille et ses troupeaux. Évidemment, Laban le poursuit. Mais là, Dieu avait un plan pour la vie de Jacob. Il va le protéger. Mais un brisement, ça ne suffisait pas. Dieu le protège. Il y a réconciliation avec les fils de Laban. Il continue sa route et il apprend que son frère vient à sa rencontre avec beaucoup de gens. Aïe, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il a peur. C'est un homme déjà bien brisé. C'est plus le Jacob brisé, plein de stratagèmes. Et cette nuit-là, Dieu y met le paquet. Il lutte avec un homme qui s'avère être l'ange de l'Éternel. Et cet homme va lutter avec lui toute la nuit. Toute la nuit. Il va être fort quand même. Et puis avant de le quitter, Jacob réalise, non, c'est pas un humain. C'est vraiment Dieu qui se bat avec moi. Et cet ange lui déboîte la hanche. Ça fait mal. Il va boiter pour le reste de sa vie. Il va boiter pour le reste de sa vie. Il sera complètement changé. Et il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Oh, il n'est plus dans le stratagème, dans la ruse, dans je vais me débrouiller, etc. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Parce que tout le monde disait, hein, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Il doit se soumettre maintenant à Dieu, il doit prier pour sa bénédiction. Il ne va plus traficoter ses stratégies, il va se soumettre à Dieu et prier. Il est souvent fait allusion d'ailleurs à l'adoration que Jacob voue à l'Éternel. Ésaü lui pardonne le lendemain, c'est un homme brisé mais transformé, pour le mieux. Ces brisements, c'est clair, hein, on sait à quoi ils ont servi. Au moins là, on n'a pas de questions à se poser. Et Jacob, c'est lui qui va enfin donner une postérité importante, 12 enfants. Et on va arriver à l'un des enfants, Joseph. Et puis comme souvent dans les familles, on reproduit les comportements. Jacob avait été le favori de maman, Joseph va être le favori de papa. Et lui, Joseph, c'est quelque chose. Joseph, il commence bien sa vie, bien protégé. Il est sous la tente avec papa pendant que les frères, ils vont bosser avec les chèvres, les moutons. Ils vont parfois faire des kilomètres à pied sous le soleil pour changer de pâturage. Parce que vous savez, c'est tout bête, mais les moutons, ils ont tendance, si on les laisse dans le même pâturage, à arracher les racines. Donc après, il n'y a plus rien. Donc il faut régulièrement changer pour que ça repousse. Donc ils en ont fait des kilomètres, les pauvres frères. Mais lui, Joseph, il est tranquille avec papa à la maison. Je ne sais pas ce qu'il buvait à l'époque, s'il buvait le thé avec papa, mais il était bien. Et non seulement ça, voilà que Joseph se met à avoir des visions. Et dans ses visions, c'est lui, le prince, et ses frères s'agenouillent devant lui, se prosternent devant lui. Et ce gros malin, 17 ans, il raconte tout à ses frères. Ses frères qui déjà travaillent dans les champs depuis des années, pendant que lui ne fait rien, ils sont excédés. Ce petit vantard nous promet qu'un jour on va se prosterner devant lui, ça suffit, c'est trop. Et là, le comble, son père lui offre un manteau de différentes couleurs qui à l'époque était réservé au prince. Ça avait un sens. Nous, on dit un manteau de différentes couleurs. Et alors? Ben non, à l'époque, ça avait un sens. C'était le manteau des princes. Non, alors là, ça fait vraiment trop pour les frères. Et premier brisement, Eh bien, ses frères décident de le tuer, donc ils l'attendent quand il va leur porter le ravitaillement. Et puis, ils le jettent dans une citerne. Alors, au début, ils avaient l'intention de le tuer, mais il y en a quand même un qui a dit, c'est notre frère, non, on va pas faire ça. Jetez-le plutôt dans cette citerne qui, où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus que de la boue, je pense. Et puis, il se disait, ce soir, je vais revenir le chercher. Manque de peau, quand il revient le soir, Joseph n'est plus là. Pendant que Claude gardait ses moutons, ils l'ont vendu comme esclave. Alors, si c'est pas un brisement, c'est bien imité, hein. Le petit prince chéri de papa se retrouve esclave. Alors vous imaginez le chemin jusqu'en Égypte. Un brisement total. Il n'y a plus d'identité. Il est vendu comme une bête. On regarde ses dents. Vous imaginez le spectacle, quoi. Vendu comme esclave. Et comme si ça ne suffisait pas. Et alors c'est curieux parce que quand vous lisez l'histoire de Joseph dans la Bible, vous avez ce refrain. Dieu était avec Joseph et il le faisait prospérer, etc. Enfin, suivant les traductions. Ah bah oui, effectivement, il est acheté par Monsieur Potiphar, qui a ses entrées au palais de Pharaon, et qui, voyant que c'est un excellent élément, pour la première fois qu'il travaille, il y met le paquet apparemment, et donc, il est tout content de lui, il lui donne de plus en plus de responsabilités. Il le voit faire un travail tout bête, d'esclave, et puis petit à petit, il a de la valeur, ce gars, on peut lui donner plus, on peut lui donner plus, on peut lui donner plus. Il se retrouve à la tête de tous les serviteurs de Monsieur Potiphar et ben, il est heureux, manque de chance. Il est accusé faussement par la femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui. Problème, accusé faussement. Il aurait pu être tué, mais grâce à Dieu, il est envoyé en prison. Si c'est pas un brisement ça, une fausse accusation, ça fait toujours mal. Accusé faussement. Il est en prison, là, il tombe encore plus bas. Esclave, il avait un espoir de monter. D'ailleurs, il avait monté, il avait grimpé dans la hiérarchie. Et là, il se retrouve plus bas que les esclaves, en prison. Et les prisons égyptiennes, à l'époque, je vous assure, c'était pas drôle. J'ai regardé un petit peu dans des bouquins. Ouh, c'était terrible. Et mais il perd pas sa droiture. C'est ça qui est extraordinaire. Il commence à s'approfondir dans sa vie. Il n'est plus le petit vantard, mais il commence à dire, bon, allez, je vais rendre service aux autres. Je vais me mettre au service des autres. Il s'occupe des autres prisonniers. Je ne sais pas trop comment. Peut-être il leur porte à manger, il nettoie les cellules. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais petit à petit, il s'en occupe tellement qu'un jour, deux prisonniers, serviteurs de Pharaon, ont besoin qu'il interprète un rêve. Et il avait le don d'interpréter les rêves. Ça lui avait coûté cher, d'ailleurs, la dernière fois. Et il dit à l'un, bah le pharaon va te récupérer, par contre l'autre, il va te faire pendre. Bon, celui-là n'était pas content, l'autre était content. Et il leur dit, surtout, quand toi tu vas retourner au palais avec Pharaon, ne m'oublie pas. Eh bien, il a été brisé encore un peu plus, parce qu'ils l'ont oublié. Si j'avais fait le compte, je crois que c'est 18 mois, un truc comme ça. C'est long, quand vous êtes en prison, au bas de l'échelle. Mais la main de Dieu reste sur lui. Les brisements successifs, Dieu les a mesurés. Il les a mesurés. Il n'a pas été tué. Il a grimpé dans la hiérarchie chez Potiphar. Malgré sa fausse accusation, il a été remarqué en prison et il a rencontré des gens très importants. La main de Dieu était là, dans son malheur. Et puis, ce don d'interpréter les rêves va devenir très important puisqu'un jour, le pharaon a un rêve. Il voudrait bien quelqu'un, ses astrologues disent rien d'intéressant, ses magiciens n'en parlons pas, il est furieux, personne ne peut trouver quelqu'un pour interpréter mes rêves. Et Joseph, évidemment, va revenir à l'esprit de celui qui était retourné au palais et il va interpréter donc le rêve du pharaon. On vient le chercher à la prison, vite. Et là, il fait preuve d'une grande sagesse. C'est plus le gamin de 17 ans qui se vantait auprès de ses frangins. C'est fini, ça. Il fait preuve d'une grande sagesse. Il a été humilié, il a été brisé, au plus bas qu'on pouvait l'imaginer. Et le pharaon l'admire, admire sa sagesse, admire son intelligence. Il lui dit, mais si quelqu'un peut faire le programme que t'as dit, ben, c'est toi, vas-y, je te donne mon anneau et tu prépares tout ce stockage que tu as envisagé, etc. Je vous dis pas le rêve, ce serait trop long, mais lisez-le, c'est dans la Genèse. Et il va sauver l'Égypte. Il va sauver l'Égypte et les peuples alentours. Parce que tous les peuples alentours, quand il y avait une famine, ils couraient en Égypte. Hein. C'était classique, Abraham l'avait fait aussi. Et il va faire revenir ses frères et son père. Avant, il les avait retrouvés Et il avait, alors ça, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est un de mes thèmes favoris avec les, quand je faisais la culture biblique, c'est la façon dont il a ramené ses frères à reconnaître leurs fautes et qu'il a pu les pardonner. Ça, c'est incroyable. Il n'a pas dit « Oh, les frères, je suis content de vous voir, pardon, pardon, je vous pardonne, il n'y a plus de soucis, voilà. » Non, 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 il les a passés par tout un tas d'étapes. Relisez ce texte, c'est très important. Psychologiquement, c'est tellement vrai. Les histoires de la Bible sont vraies, c'est des vrais gens. Et en plus, là, on a affaire à un grand psychologue. Il a su amener ses frères à reconnaître qu'ils lui ont fait du mal. Et, bon, vous relisez ça, c'est passionnant. Et le peuple d'Israël lui-même, du coup, va être sauvé de la famine. Le plan de Dieu se réalise. Mais il se réalise au travers de pas mal de brisements quand même. Hein. Joseph, je crois que c'est un des pires. On va passer à un autre personnage, David. Alors, comme le petit garçon avec les pains et les poissons, David, c'est un jeune berger. Il est négligé par sa famille, mais ça n'a pas l'air de lui poser des masses de problèmes. C'est surtout un très bon musicien qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu en gardant ses moutons. C'est quelqu'un de courageux et de battant. Il explique que quand un lion de montagne ou un ours venait s'attaquer à ses moutons, il faisait face et il les tuait. Bon, courage, force. Il va battre Goliath, je passe. Hein. Normalement, il devait épouser la fille du roi. Et puis, il l'a épousée, je crois. Mais bon, elle lui a sauvé la vie une fois quand même. Mais après, son père lui a la reprise. Et il a mis avec le fils du roi, avec Jonathan, avec le prince. Il a été pendant un temps chef de l'armée. Bon, là, tout se présente pas mal quand même hein, pour un gamin qui était derrière ses moutons. Par contre, et là, c'est quelque chose, moi, qui me fait tellement mal depuis des années. Je me dis, mais il était cool, ce pauvre David, avec ses moutons. Il était tranquille. Il vivait sa petite vie. Il aimait ses bêtes. C'était un excellent berger. Il pouvait louer Dieu toute la journée. Ses frères l'embêtaient pas. Même s'il l'ignorait, bah tant pis. Il avait cette communion avec Dieu. Il jouait la musique. Il se créait des instruments, j'imagine. Hein. Et c'est super. Et là, il lui arrive plein de bénédictions. Oh, c'est génial. Et bang, Saül tombe dans la jalousie et il va chercher à le tuer, le roi Saül. Et là, ce pauvre David qui n'avait rien demandé à personne, il se trouve pourchassé dans le désert, accompagné par tout un tas de gens plus ou moins nets hein, qu'on avait après le gouvernement. Je ne vais pas faire de politique, même si ça me fait envie. Et il est poursuivi dans le désert. Il s'enfuit pendant des années. Il va se réfugier dans des cavernes, et même chez les Philistins, ennemis jurés d'Israël. Non mais, quel brisement! Il se croyait arrivé. Gendre du roi, ami avec le prince Jonathan, tout est beau, j'ai battu Goliath, Dieu m'a donné sa grâce, etc. Apparemment, il ne s'était même pas enorgueilli. Mais pourquoi il est brisé comme ça? Eh bien, j'en sais rien. J'en sais rien. Sur le coup, on se dit, mais pourquoi? Poursuivi injustement dans le désert, il se réfugie dans des cavernes, il refuse toujours d'attaquer Saül. Alors qu'on lui dit, mais là, Saül, tu l'as sous la main, vas-y, tue-le, tu seras tranquille. Non. Grande droiture, grande loyauté. Et puis, c'est pas fini. Les années passent, il a réussi, les Philistins lui avaient laissé une ville qui s'appelle Siklag. Alors, on en a déjà parlé, je sais pas si vous en souvenez. Et puis, un jour, il rentre à Siklag avec son armée, ils étaient 400 à 600. Et qu'est-ce qu'il voit? Les femmes et les enfants sont kidnappés. Les biens et les troupeaux sont volés. Et certains de ces hommes, ils sont sous le choc, hein, ils sont prêts à le tuer. On peut les comprendre. Et au milieu du parcours pour aller récupérer tous ces biens, il y a même un groupe qui se dit, nous on reste là, on ne va pas plus loin, on est fatigué. Donc il n'a plus que la moitié pour aller récupérer ses biens. Heureusement, il récupère tout. Mais vous imaginez? Je pense que la perte de Tsiklag a dû être un choc, mais un choc. Comme si ça suffisait pas d'être poursuivi, obligé de se réfugier chez les Philistins. Philistins lui donnent une ville, il peut recommencer une vie normale, avec femme, enfant, etc. Ça a dû être terrible. Ils vont le tuer, ils le laissent tomber. Il leur en a pas voulu d'ailleurs, c'est magnifique. Et peu après ce dernier brisement, c'est la victoire. Il va devenir roi de Juda, roi d'Israël, et Le peuple d'Israël va connaître une période de prospérité telle qu'aujourd'hui encore, vous avez une étoile en Israël qui s'appelle l'étoile de David. David reste le modèle du roi. La Bible contient aussi beaucoup de ces cantiques. Quelqu'un a calculé, c'est sous réserve, 73 psaumes rédigés par David, qui ont eu une grande influence spirituelle au fil des siècles. Là on est 1000 avant Jésus-Christ, hein, donc ça fait 3000 ans. Et puis Jésus, quand quelqu'un l'appelle Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, cet aveugle, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus reconnaît qu'il est de la lignée de David humainement, son côté humain. Et Matthieu 22, si vous voulez vérifier. Donc, beaucoup de brisements pour arriver à fabriquer le meilleur roi qu'Israël ait connu. Ça ne l'a pas empêché de faire des bêtises. Mais Dieu l'a corrigé. Après, les brisements, ça a été des corrections. Bon. Mais ces deux brisements, franchement, c'est dur. Il n'avait rien fait pour mériter ça. Rien du tout. Les autres, il était conscient. D'ailleurs, le prophète lui avait dit, c'était clair. Mais là, ces deux brisements, rien. Et il a été pendant, je crois, j'ose plus dire le chiffre, parce que je ne retiens pas bien les chiffres, mais plus de 20 ans en tout cas, roi d'Israël. Il a agrandi les frontières. Et il a eu des victoires extraordinaires sur ses ennemis. Dieu l'a béni toutes sortes de matières. Il a fait revenir l'arche. Enfin, voyez, Dieu avait fabriqué le meilleur roi d'Israël. Mais après des brisements. On va terminer rapidement avec Daniel et Paul. Daniel, alors Daniel, vous avez vu qu'il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Daniel et qui est un livre très prophétique. C'est un jeune aristocrate de Jérusalem. Il commence bien sa vie, lui. Hein. Cool. Riche, bien vu. Et puis c'est la guerre, Nebuchadnezzar arrive, et ils avaient une façon de faire, ces gens-là, les Babyloniens, les Assyriens aussi, mais les Babyloniens, les Perses, ils avaient cette tendance. Ils repéraient les jeunes gens en bonne santé, intelligents, compétents, qui connaissaient l'art de la guerre, qui connaissaient la comptabilité, c'était très important dans les royaumes, et donc ils les repéraient et ils les emmenaient prisonniers. Daniel, du jour au lendemain, d'aristocrate, heureux et riche, se retrouve prisonnier. Il perd tout, sa famille, la plupart de ses amis. Je ne sais pas si ceux avec qui il était dans la Bible, c'était des amis avant ou après, je ne sais pas. Il perd sa famille, ses amis, son pays, sa langue maternelle. C'est fini de parler l'hébreu, hein. Il faut apprendre la langue des Babyloniens. Il perd même son nom. Même son nom. Il perd tout. Ben, si c'est pas un brisement, ça, tout. Mais il y a une chose qu'il a gardée, c'était son Dieu. Sa fidélité à Dieu. Il reste fidèle à son Dieu. Et là, franchement, je connais des gens qui ont quitté le Seigneur pour moins que ça. Hein. Oh, ben, le Seigneur n'a pas répondu, c'est fini. Hein. Et lui, il reste fidèle. Il reste fidèle. Et alors, je ne vous donne pas tous les détails parce que vous pouvez lire dans les premiers chapitres de Daniel, c'est très intéressant. Il va devenir conseiller royal, gouverneur, chef des satrapes. Les satrapes, c'était les sortes de gouverneurs aussi. Prophète reconnu, respecté par les rois. Il va être conseiller de tous les rois qui vont suivre. Alors, c'était la guerre. Il y en a un qui était renversé, il y en a un autre qui arrivait. À la fin, il va même jusqu'à Cyrus, roi perse, qui a permis le retour en Israël, hein, voilà, respecté par les rois, et de temps en temps jalousé par les courtisans, donc à chaque fois. Alors c'est ça que j'aime pas dans la vie chrétienne, Seigneur, je suis désolée, mais franchement j'aime pas, c'est que chaque fois que Dieu bénit, chaque fois que Dieu fait des grandes choses, derrière l'ennemi se dit, ah, mais on va pas laisser faire ça, et bang, et les courtisans, à chaque fois, alors ça c'est l'histoire de Daniel, c'est horrible. Il est reconnu, il est honoré, on lui donne plein de choses, de l'or, voilà. Et puis, pouf, derrière les courtisans, quoi ? Il l'a fait chef de, je sais pas quoi, des satrapes. Ah, mais c'est pas possible. Et alors, il cherche le moyen de le détruire. Ah, le diable nous fatigue. Il cherche le moyen de détruire, parce que Dieu l'a béni. Il faut le détruire. Il faut le détruire, il nous fait concurrence. Ça, c'était les païens, hein, c'est normal. Mais bon. Il va se retrouver dans des circonstances hein, épouvantables, y compris la fosse au lion que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de ça. Dieu à chaque fois. Alors, ce qui est merveilleux dans Daniel, c'est que à chaque fois Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé, même dans la fosse aux lions. À chaque fois, Dieu était avec lui. Et il a vécu très âgé, d'après ce que j'ai lu. Il a vécu très très âgé, puisqu'il a été sous différents rois. Et à chaque fois, il était reconnu, béni, jalousé. Reconnu, béni, jalousé. Mais bon, le Seigneur a été avec lui jusqu'au bout. On va terminer avec Paul, parce que Paul est plus proche de nous. Ça fait que 2000 ans, c'est pas beaucoup, hein. Paul était un homme riche, très cultivé, très pratiquant, pharisien. Imaginez qu'il parlait 4 langues. Quand il y en a qui disent, oh ben j'aime pas ça quand les gens me disent, oh ben oui, pour être chrétien, c'est parce qu'on a besoin d'une béquille dans la vie. Ouais, et ben l'apôtre Paul, il n'avait pas besoin de béquille. En plus, il était extrêmement cultivé, il parlait 4 langues, donc le latin, le grec, l'hébreu et l'araméen. Bon, ben même à notre époque, des gens qui parlent 4 langues couramment, qui peuvent écrire des livres dans une de ces langues, bon, j'ai des doutes, hein, il n'y en a pas beaucoup. Il était en plus citoyen romain, du côté de... des puissants et persécuteurs des chrétiens. Il avait tout pour lui. Et il va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, qui lui dit, tu vas savoir ce qu'il te faut souffrir pour me suivre. Il lui dit, et après il dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Waouh. Ça, pour un brisement, c'était un brisement. Alors, il y en a qui m'ont dit, on ne sait pas s'il est tombé de cheval, le texte le dit pas, mais on a toujours imaginé qu'il était tombé de cheval. Comme il était riche, il devait se déplacer à cheval. Il partait à Damas pour mettre des chrétiens en prison, tant qu'à faire. Hein. Et il est brisé, il devient aveugle, complètement dépendant, du jour au lendemain, brisé. Tout son intellect ne répond pas à ses questions. Mais où j'en suis, pourquoi, cette voix que j'ai entendue, il est complètement brisé. Moi, je me mets à sa place, vous imaginez, il était sûr de lui, cet homme cultivé, puissant, probablement riche d'ailleurs, qui se déplace pour aller mettre les chrétiens en prison, lutter pour Dieu, contre l'hérésie, et paf, il attend là, dans une petite maison, que Dieu réponde à sa prière, et Dieu lui envoie un disciple qui va prier pour lui, il va guérir. Il deviendra l'apôtre Paul. Alors, il n'aurait jamais été ce qu'il a été sans ce brisement-là. Donc, il y a des brisements qu'on comprend. Il y a des gens qui sont venus à Jésus-Christ à la suite d'un brisement. Mais il y a des brisements dans la vie. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Ils sont là. Alors, parfois, les gens savent. C'est entre eux et Dieu. Parfois, c'est évident, comme Joseph, comme Paul. Et puis parfois, ben, on ne sait pas. Mais on pourrait citer plein de témoignages de missionnaires, de pasteurs, de chrétiens qui ont vécu un brisement terrible. Et je m'amuse parfois quand j'entends les gens parler de... Il est décédé maintenant, le pasteur de la Porte Ouverte à Mulhouse. Papa Peter Schmidt. Moi, j'ai lu sa biographie. Je vous conseille de la lire. Pour être brisé, cet homme a été brisé. Brisé, méprisé, renvoyé de son église. Mais voilà, vous connaissez tous Papa Peter Schmidt, vous l'avez entendu prêcher. Voyez ce qu'il est devenu. Mais ces brisements nous transforment, nous remettent sur le bon chemin. Parfois, ils nous rendent aptes à notre appel. Parfois, ils nous gardent dans l'humilité. Et nous apprennent surtout la vie de prière. Parce que quand on n'a pas été brisé, on pense « je peux ». Quand on a été brisé, on pense « il peut ». Jésus peut. Et ça me fait penser à ce que je dis souvent, Dieu sait ce qu'il fait. Parfois on comprend, parfois on ne comprend pas. Mais c'est Dieu qui décide. Et parfois, je pense à Isaac. Vous savez que j'aime bien Isaac. On n'en parle pas beaucoup dans la Bible. C'est dommage. On dit toujours Abraham, Isaac et Jacob, etc. C'était un homme extrêmement paisible. La Bible le décrit comme celui qui a creusé des puits et puis l'ennemi est venu les boucher. Alors il est allé plus loin et il a creusé un autre puits. Et l'ennemi est venu le boucher. Alors il est allé un peu plus loin. Et les noms des puits sont intéressants. Vous regarderez dans la Bible. Il va déboucher et il va créer un autre puits. Et à la fin, après plusieurs expériences comme ça, il va... faire un puits, et c'est amusant un peu à lire, ça doit pas être amusant à vivre, Et l'ennemi n'est pas venu boucher le puits. Ah ! Enfin ! Un premier, puis un deuxième, puis un troisième, que l'ennemi n'a pas bouché. La Bible ne dit pas ce qu'il a appris. J'aurais bien aimé pouvoir vous dire, ah ben voilà, c'était pour telle raison qu'il a vécu. C'est... Parce que quand même, creuser un puits dans le désert, il n'y a plus ces grosses machines qu'on a aujourd'hui, hein, qui vous creusent un puits dans la journée. Hein. Deux jours peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses, Philippe ? Ça ne prend pas longtemps hein, de creuser un puits maintenant avec les nouvelles machines. Il a une grosse, grosse machine, c'est pour ça. Ouais, ah ben là, c'est terrible. Donc, la Bible ne dit pas pourquoi. Mais Isaac reste, pour moi, un modèle de quelqu'un qui a, tant pis, les ennemis rebouchent. Je recreuse un... Il a été persévérant. Je crois que ça a été un homme de persévérance. Alors, si vous avez passé, j'imagine, comme tout le monde, par des brisements, peut-être vous vous dites, je ne sais pas pourquoi. Peut-être vous savez pourquoi. Peut-être vous savez ce que ça vous a apporté. Peut-être vous ne savez pas. C'est différent pour chacun. Mais Dieu sait. Dieu sait ce qu'il fait. Et on va faire comme Abraham, on va lui faire confiance. On va lui faire confiance, même si on ne comprend pas. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ce matin ont entendu ce message. Pour moi-même aussi, parce que ce n'est pas un message facile. Et Seigneur, tu nous connais chacun par notre nom. Tu sais ce qu'il a fallu briser en nous. Tu sais, tu connais nos cœurs. Et ça, c'est merveilleux. Tu connais nos cœurs et tu sais ce que tu fais. Merci pour tous les brisements qui se sont solutionnés en victoire, qui se sont solutionnés en bénédiction, en abondance, comme ce pain rompu qui est devenu des kilos de pain. Parce que tu donnes l'abondance, on l'a chanté aussi, tu donnes l'abondance. Seigneur, veuille bénir chacun de nos cœurs, ceux qui sont encore avec des cicatrices douloureuses. Et Seigneur, c'est vrai qu'on veut prendre notre courage à deux mains pour te dire, oui, prends tout Seigneur, même si ce n'est pas facile, mais ce que tu fais est bien fait, même si on ne comprend pas tout. Remplis-nous de foi, de persévérance, parce que tu es notre Dieu et nous t'aimons Seigneur de tout notre cœur. Amen.